Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
L'attaque du World Trade Center nous a tous marqué profondément, définitivement. Le déroulement des images de cet attentat sur nos écrans semblait appartenir à un film catastrophe hollywoodien et nous plongeait dans l'incrédulité, la stupeur, l'incompréhension, l'interrogation. Que signifiaient ces images? Quels en étaient le metteur en scène, les acteurs, le producteur? Quel sens donner à ce qui se passait? L'écran a soudain pris une importance planétaire. Notre société triomphante, arrogante, s'effondrait à l'intérieur de ce cadre neutre, indifférent, qui relayait en boucle des images stupéfiantes. À travers trois personnages, et même quatre, de ce roman, on retrouve tout ce qui sous-tend notre société contemporaine, éléments souvent en conflit, comme ce goût du pouvoir et de l'argent, l'asservissement à la technologie, et en même temps le désir d'exister en tant qu'individu et une aspiration à un monde meilleur. Ce roman s'intitule « Par les écrans du monde », il est édité au Seuil, et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Fanny Taillandier. Fanny Taillandier, bonjour.
Bonjour.
Voilà, ce roman nous ramène 17 ans en arrière, l'attaque et la destruction du World Trade Center, c'est-à-dire deux gratte-ciels symboliques de la puissance américaine. Vous aviez 15 ans au moment de l'attentat, si j'ai bien calculé. Qu'aviez-vous éprouvé à ce moment-là?
Moi, en fait, j'ai éprouvé quelque chose d'étrange qui était que je n'ai pas du tout compris en fait ce qui se passait. J'ai vu ces images en plus sur une télé en langue étrangère. Je connaissais pas New York. Je n'avais pas de représentation de cette skyline. Donc du coup, je savais pas du tout où c'était. Donc mon premier réflexe a été de me dire tiens,
un film catastrophe.
C'est un film qui passe à la télé. Et du coup, j'en ai trop rien pensé. Mais ce qui m'est arrivé par contre, c'est que j'ai compris. J'ai compris par le bruit que ça a fait autour, tous les commentaires, et y compris les commentaires de mes parents, etc., que c'était en fait quelque chose de très grave. Donc c'était à la fois totalement irréel et à la fois immédiatement désigné comme quelque chose qui allait avoir des conséquences immenses.
Alors, et aujourd'hui, pourquoi avoir fait ce roman ?
Mais parce que je crois que justement, j'étais pile à cet âge où on commence à avoir de la curiosité et à chercher des réponses. Et en fait, depuis, dans ma vie, tout m'a toujours ramené là. Ça serait étrange de le dire comme ça, mais quelque part, à chaque fois que je m'interrogeais sur le monde, sur les religions, les guerres, etc., je retrouvais toujours à un moment ces images.
Oui, parce que finalement, votre roman, c'est un roman, oui. Mais pas seulement, il y a un travail d'analyse et à partir des faits, vous relatez l'histoire passée, avant l'événement, l'histoire au moment même, et puis finalement, le lecteur ne peut s'empêcher de penser à l'histoire actuelle.
Oui, alors c'est effectivement c'est un roman qui se passe le jour des attentats, ça commence le matin des attentats et ça finit le soir du 11 septembre, donc ça dure 12 heures quelque part, mais pour moi cet endroit était le point nodal à partir duquel je pouvais aller explorer différentes directions quoi. Oui. Je l'ai pas conçu comme un roman. Moi j'ai enquêté et ensuite le travail d'écriture ça a été de rendre compte de cette enquête
à travers trois personnes
par les moyens de la littérature, donc par les moyens de la fiction, de la narration, des personnages, de la langue et de l'imagination. Quoi.
Oui, quand vous dites nodal, effectivement, les trois individus, je dirais quatre, mais surtout trois, effectivement, qui sont dans cette tourmente, vous montrez que l'éducation, les rencontres, les idéaux, les manipulations, les humiliations, tout ça concourt à les amener là-dedans, mais il y a également toute la politique, je dirais, quasiment mondiale.
Oui, alors après ça c'est une conviction personnelle et qui est une expérience personnelle. On a chacun une intimité, une vie intérieure, mais en fait cette vie intérieure est perpétuellement en contact avec le reste du monde, ce reste du monde qui se fait toujours avec nous, mais en même temps toujours sans nous et qui s'impose à nous autant qu'on agit dessus. Et du coup les trois personnages que j'ai choisis, donc je pense qu'on va en reparler plus en détail, mais c'est trois personnages pour qui en fait cet événement est à la fois un événement qui parle à leur histoire et à leur histoire collective, leur inscription dans des pays, dans des nationalités, dans des récits nationaux ou idéologiques ou religieux, et à la fois un moment qui, par divers moyens, les prend dans leur intimité. Voilà, donc c'était ce point de rencontre-là qui était intéressant à travailler.
Oui, tout à fait. Alors, et vous dites, à la page 28, le chaos est un ordre inaccessible à l'entendement humain. Donc il y a aussi un besoin, on a tous besoin de trouver une logique, de mettre de l'ordre dans ce monde qui nous paraît complètement ahurissant à certains moments. Il y a de ça aussi, vous essayez de démêler les chevaux.
Totalement, ouais. C'est pour ça que je parlais de point de nodal, c'est vraiment un nœud, c'est une pelote de nœuds. Quelque part, le présent, ça reste notre présent, même si effectivement un peu de temps a passé depuis, mais il me semble que c'est le point de départ du 21e siècle, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Voilà, et c'est une pelote de nœuds, et puis après l'histoire fera son travail. Moi c'est pas un travail d'historien ou d'historienne que j'ai fait, c'est d'interroger ça à l'aune, comme vous le disiez, de notre présent. Les trois personnages sont des personnages qui agissent sur le présent. Donc les deux personnages américains, le frère et la sœur, William et Lucy, sont partie prenante de la machine américaine. Donc William est un ancien soldat de l'Air Force, il travaille à la sécurité de l'aéroport de Boston, d'où partent les avions kamikazes. Sa sœur Lucy travaille au World Trade Center, elle fait de la gestion de risque, donc en fait elle travaille dans la spéculation mondiale. Et le troisième personnage, Mohamed Atta, donc qui lui est plus réel que les deux autres, puisqu'il a été le chef d'équipe des kamikazes. Eh bien, lui, il est forcément concerné, puisque c'est lui qui se jette dans la tour. Quoi. Oui. Et leurs histoires se répondent par
oui. On va y revenir. Vous avez mis en exergue deux citations du Coran et de Ballard. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Baptiste ou James plutôt, oui. Ouais. C'est un écrivain de science-fiction que certains sans doute connaissent, et même d'anticipation sociale souvent. Et il avait fait une analyse prophétique des médias et de leur rôle. Alors, on comprend. Alors, la citation, vous l'avez mise parce que effectivement, ça correspond à tôt ou tard. Tout devient télévision. Et je ne sais pas en quelle année, d'ailleurs, il a écrit ça.
Je crois que c'est au début des années 80 ou à la fin des années 70.
Oui, on est en plein. Et alors, il y a une citation du Coran. Pourquoi avoir choisi cette citation-là?
Ah ben c'est une sourate. C'est une sourate. Enfin, c'est la fin d'une longue sourate, qui est la sourate des factions.
En vérité, nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé d'en assumer la responsabilité. Ils en ont été effrayés. Alors l'homme s'en est chargé, mais il est injuste et ignare.
Alors, il y avait deux choses. Dans le contexte qui est le contexte français actuel, donc depuis notamment les attentats de 2015, je ressens, moi je suis très, très œcuménique par mon travail et par ma vie, je connais beaucoup de musulmans et je ne suis pas la seule, mais je ressens une méfiance par rapport à ce qui touche à l'islam. Parce que l'islam a pris ce visage à un moment donné très violent en France et donc du coup il y a une distance qui s'est mise là. Donc pour moi c'était important. Dès le début, de réhabiliter quelque part, enfin d'habiliter en tout cas le Coran, donc le saint livre musulman, comme quelque chose qui était là. Et pour moi, alors c'est encore une conviction personnelle que je n'impose à personne, mais pour moi, les trois monothéismes sont trois facettes d'une même médaille. Donc ce qu'il y a dans le Coran, quelque part, me paraît aussi juste que ce qu'il peut y avoir dans d'autres textes saints. Mais c'est mon point de vue sur les choses.
La place accordée aux femmes n'est pas la même.
Non, mais après, de toute façon, on ne va pas entrer dans un débat
absolument.
Comme celui-là. Mais ce verset, il me paraît intéressant parce que ce que ça dit, donc le « nous », c'est le « nous » de Dieu, hein, puisque c'est la parole révélée. Et Dieu dit, finalement, l'homme, on lui a proposé en dernier de garder la foi forte. On a d'abord proposé à l'ensemble de la création. Et puis, il a accepté la responsabilité, alors que l'ensemble de la création, quelque part, l'a trouvée trop grande. Mais le problème, c'est qu'il est injuste et ignare, c'est-à-dire que voilà,
il l'a dévoyé.
En tout cas, il avait peut-être l'orgueil d'en accepter la responsabilité, mais il avait aussi cette faiblesse d'être injuste, d'être ignare, qui fait que ce dépôt de la foi, finalement, ce que ça dit, c'est que cette foi, elle peut aussi devenir une arme. Et je trouve que c'est une vision assez intéressante de la place de la religion.
On pourra d'ailleurs en reparler parce qu'à la fin de votre ouvrage aussi, il y a une référence qui est importante. Je voulais, alors le titre, Par les écrans du monde, moi je pense qu'en effet, ça c'est également très important dans votre ouvrage, le rôle, la place de l'image de l'écran, en fait. Parce que c'était le début du XXe siècle, et du XXIe, et on est entré là dans la toute-puissance de l'écran, et c'est vrai que on a tous dans le monde regardé la même chose quasiment en même temps. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en même temps, c'est quand même un problème, ces images, s'il n'y a pas d'explication.
Ce qui est intéressant avec le mot écran en français, c'est que l'écran, c'est ce qui montre et c'est aussi ce qui cache quand on dit faire écran.
Exactement.
Donc il y a ce double rapport de transmission et d'opacité complète, quoi. Et les images, alors pour moi, c'est ce qui fait vraiment la supériorité de la littérature sur l'image fixe ou animée, c'est que l'image ne peut dire que ce qu'elle a dans son cadre, alors que la littérature n'a pas de cadre, elle peut aller partout. Donc du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de remettre en tension ces idées-là. Qu'est-ce que ça signifie, une image? Parce que ça signifie, ça a un effet sur qui la regarde, et les images de cet attentat ont eu un effet sur tous ceux qui les ont vues. Et en même temps, ça tait le sens. Ça ne peut pas construire le passé. Il n'y a pas de passé dans une image.
Ça peut apporter une émotion stérile, finalement, hein, parce que souvent on joue sur les émotions, ou alors un détachement plutôt égoïste, et puis des jugements très hâtifs aussi, hein, quand on n'est pas éclairé par des informateurs, disons, objectif, si l'objectivité existe. Alors, selon vous, c'est devenu le mal du siècle de tout montrer, de tout voir?
Le mal du siècle, je ne sais pas, ça serait une... Enfin, vous me demandez de prendre une responsabilité, de désigner le mal du siècle d'un coup dans le sol.
Parce que moi, j'avais noté, justement, vous parlez de la lecture, effectivement, on dit qu'on lit moins, mais qu'on voit beaucoup plus.
Oui, alors après, je sais pas, parce que ça, sans doute que ça a des vertus aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, un des personnages le fait dire à un autre personnage dans le livre, mais à partir du moment où on demande de tout voir, où on désire tout voir, c'est qu'on accepte aussi d'être toujours vu.
Oui.
Et je pense que ce qui est très... Dans notre monde, dans cette omniprésence de l'image où on s'envoie des images, on regarde des images, on réagit à des images, en fait, ce qu'on perd, c'est peut-être une intériorité, quoi. L'écran absorbe, en fait.
Oui.
Nous absorbe, et c'est l'expérience facile à faire, hein. Il suffit de se mettre devant une télévision quand on est un peu fatigué, on la regarde et on ne pense plus à rien. Voilà, je ne sais pas si c'est le mal du siècle, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens à titre personnel comme un danger.
Et la manipulation aussi peut être forte. Bon, on le voit même dans cette catastrophe du World Trade Center, c'est un accident sans corps.
Oui, ça c'est une des premières choses qui m'a marquée quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, c'est qu'en fait, ce qu'il y a de terrifiant dans ces images, c'est qu'elles sont absolument déshumanisées.
Absolument.
En fait, c'est les symboles de la société de croissance capitaliste, donc le gratte-ciel et l'avion, qui entrent en collision, et l'un et l'autre sont là pour les humains. Sont censés être là pour les humains. Et finalement, en fait, c'est comme si les machines prenaient leur vie propre et que les humains disparaissaient. Et d'ailleurs, cet attentat n'a presque pas laissé de corps. C'est horrible à dire parce qu'il y a eu pratiquement 3000 morts.
Oui,
et sur les 3000 morts, en fait, voilà, il ne restait
que 300 corps, je crois.
Voilà, il ne restait plus rien des humains. Que du déchet comme on produit la société de croissance.
Oui. Votre livre commence par un très très beau chapitre. Bon, je salue en passage votre écriture. Un très beau chapitre qui rend poignant la beauté du monde. Je pense à un film qui s'appelait Soleil vert, je crois, où on montrait des images très belles d'une forêt avec des biches qui passent pendant qu'on donne la mort à des personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, un film de science-fiction remarquable.
Oui, j'ai vu ce film,
C'était avec une musique classique de Peer Gynt, il me semble. Et là, j'ai pensé à justement un film, vous voyez, on n'en sort pas. Un très beau chapitre qui nous rend nostalgique. On va, si vous voulez, est-ce que vous acceptez de le lire d'abord ?
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Alors, et après, on en parlera.
Faute de film, nous n'aurons pas un regard pour ce carré de pelouse bien tondu qui descend, depuis la porte-fenêtre restée ouverte, jusqu'au lac. La scène ne sera enregistrée nulle part. Deux corneilles réveillées se sont mises à tournoyer, formes noires et légères dans un monde encore bleu, et jettent leurs cris perçants vers le voile de brume matinale suspendu sur les eaux, que le soleil n'a pas encore déchiré. Plus loin sur la berge se détachent les silhouettes droites des pins, sur le miroitement huileux de l'eau calme, qui dépasse au-dessus des hautes herbes, jusqu'à perte de vue. Souvent il y a du vent ici, mais ce matin, à peine un souffle. Dans le cadre que fait la porte-fenêtre, bordé d'un côté par le voilage blanc bouffant légèrement sous cette minuscule brise, le paysage a l'air d'une photo peinte. Pelouse, hautes herbes, pins, lac, ciel. Le bleu qui teinte tout comme un filtre s'éclaircit de façon seulement perceptible par l'arrivée des autres couleurs. Le lac devient gris clair, la pelouse prend peu à peu un vert presque fluo. On entend ensuite une grive, le ciel blanchit, l'aube est proche. Le vieil homme décroche alors le combiné du téléphone et en tire calmement l'antenne télescopique. Il compose un numéro. Après un temps, sans détacher les yeux du paysage, il dit « Lucie, c'est moi. » Puis sans attendre « Je t'appelle pour te dire que je vais bientôt mourir. » Presque aussitôt, il raccroche. Les deux corneilles se poursuivent dans la lumière encore horizontale, lançant des notes brèves vers les rives.
Voilà, et cela continue un petit peu puisque cet homme va annoncer également à son fils sa mort prochaine. Et pourquoi avez-vous choisi de commencer votre ouvrage par cela ?
Ça correspond un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Écrire sur le 11 septembre, c'était une gageure, puisque le 11 septembre, ce sont des images. Il fallait que je trouve un moyen d'entrer par le texte, par les mots, dans cette espèce de spectacle qui est tellement puissant en termes d'image qu'il coupe, en fait, il coupe la parole. Et du coup, il fallait aussi que je trouve le moyen de ramener cette expérience planétaire à une échelle très, très intime, très individuelle. Donc c'est pour ça que les deux personnages américains sont liés par le sang, ils sont frères et sœurs, et c'est leur père qui leur téléphone avant. Et puis, le 11 septembre, c'est quelque chose qui est soudain, qui arrive comme un flash. Moi, ce que je voulais montrer, ce que je voulais mettre en place au départ, pour le lecteur et pour que le récit puisse avancer, c'était quelque chose de au contraire très silencieux, très lent.
Et la nature.
On est
loin de tout ce
cette
qui...
espèce d'indifférence magnifique de la nature qui, voilà, le soleil se lève, c'est le 11 septembre, les humains vont faire n'importe quoi, mais le soleil se lève, il se reflète sur le lac et il va continuer sa course jusqu'à ce qu'il se couche à la fin du roman.
Et également, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a l'annonce d'une mort, un homme annonce sa mort prochaine, bon, et là, c'est une mort qui paraît tout à fait naturelle, qui ne heurte pas. Bon, et on va lire la suite après, évidemment, dans d'autres chapitres de ce qui va se passer. Et c'est vraiment frappant de lire ça, où il y a une anomalie, finalement. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on accepte cette mort et les autres, on ne les accepte pas.
Oui, c'est vrai. Alors, j'y avais pas pensé comme ça. Ce que ce personnage a pour moi, ce père, qui reste très discret en fait par la suite, mais qui est pour moi très important dans l'économie générale du roman, il a une acceptation, mais une sérénité par rapport au fait qu'il se sait condamné,
qu'il va quitter ce monde.
Voilà, il va quitter ce monde et ça lui va. Et effectivement, le reste, c'est quelque chose comme une révolte, en fait, de la part de tous les personnages. Oui. C'est une révolte contre la destruction, contre la mort. Donc peut-être que ce sont deux positions aussi, mais j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est aussi cette question.
Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Et là, je vous propose quelque chose qui, pour moi, a toujours évoqué New York, c'est Rhapsody in Blue. Je crois que Woody Allen était d'accord avec moi. Rhapsody in Blue de Gershwin, du moins les premières notes.
Thank you.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Fanny Taillandier, qui a écrit un roman intitulé « Par les écrans du monde » édité au Seuil. Roman qui nous parle du World Trade Center, de l'attaque du World Trade Center et de tout ce qu'il y a... des événements avant, pendant et on peut dire après aussi, nous continuerons l'histoire. Peut-être que vous aurez un tome 2, mais je ne crois pas.
Voilà, je vais arrêter un petit peu, je vais me reposer après
voilà.
Ce moment un peu.
Alors, dans votre ouvrage, il y a un mélange de réalité et de fiction, de réalité beaucoup quand même.
Ah oui, moi, au départ, je ne pensais pas écrire un roman, je me suis intéressée à ce qui s'était réellement passé. Parce que pour le coup, j'ai senti que cet événement avait été capturé pratiquement aussitôt par différentes puissances, que ce soit médiatiques ou politiques, pour en faire des récits, pour l'expliquer en servant des idéologies, quelles qu'elles soient. Et qu'en fait, je ne trouvais pas mon compte dans ces explications. Et je me rendais bien compte que c'était forcément plus compliqué. Et ça m'intriguait. Donc je suis allée chercher la réalité. Je suis allée interroger ce qui se passait derrière. Le temps de l'invention, ça a été un second temps.
D'accord. Et justement, c'est l'invention, ce sont ces personnages qui sont dans le fond des liens. Il y a un tissage de destin, d'éducation, de désillusion, de besoin de s'affirmer, d'exister. Je crois que... Et c'est ça. Et dans le fond... Ils ont quand même peut-être un dénominateur commun, non ?
Les trois personnages, oui, absolument. Alors, en fait, une des barrières que je me suis mise, enfin, ou plutôt l'un des objectifs vraiment que j'avais, c'était qu'on ne puisse pas se dire à la lecture de mon livre, ça c'est les bons et ça c'est les méchants, parce que ça ne m'intéresse pas et que moi, je n'ai pas de parti à prendre dans cette histoire. Cette histoire, c'est ce qui a eu lieu. Moi, ce que je fais, c'est de m'interroger sur... Qu'est-ce que ça dit, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Mais j'espère qu'en lisant mon livre, on ne trouve pas trop de réponses, mais qu'on a envie de se questionner davantage. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est vraiment le questionnement qui va avec la littérature. Et du coup, il fallait que ces personnages ne puissent pas être comme ça séparés, mais au contraire se répondent. Et au début, c'était quelque chose que je me suis dit que j'allais faire. Et puis en fait, au fur et à mesure que je cherchais, que j'écrivais, que le roman avançait, finalement, ces réponses et ces jeux d'écho entre des personnages qui sont séparés par énormément de choses, même William et Lucy qui sont frères et sœurs, ne s'entendent sont pas du même bord politique, ne vivent pas la même vie, n'ont finalement que très peu en commun, quoi. Et alors avec Mohamed Atta, évidemment, c'est encore plus... l'écart est encore plus grand. Mais finalement, encore une fois, quand on est dans l'expérience intime... je crois que l'humain est un petit peu toujours confronté aux mêmes vertiges, aux mêmes questions, aux mêmes enthousiasmes. Donc ensuite, ce sont ces jeux d'écho qui m'ont fait tisser l'histoire. Oui. C'est eux qui font avancer l'histoire et les personnages viennent comme c'est comme une tresse quoi, qui se fait.
Parce qu'on a le sentiment que dans le fond, d'une manière ou d'une autre, tous, y compris Attal,
Mohamed Atta,
sont installés. Dans la société. Mais malgré les apparences, en fait, ils sont tous les trois en porte-à-faux. Je les sens en porte-à-faux.
Oui, peut-être parce que ce qui est difficile avec la société, c'est qu'elle nous assigne des places. C'est, Tout l'enjeu ensuite, c'est de savoir si on peut correspondre à cette assignation, y trouver son compte ou si ça fonctionne pas. Mais
ceux-là, visiblement, n'ont pas trouvé leur compte. En tout cas, peut-être elle, Lucie, mais même pas.
Et puis, je crois que quand on, l'histoire de la vie, c'est toujours qu'on trouve son compte à un moment donné dans une place. Et puis à un moment donné, à un autre moment, les équilibres changent.
Oui.
Et puis cette place qui convenait très bien ne convient plus, quoi.
C'est,
voilà.
Alors le début du fil de la pelote, en tout cas pour les enquêteurs, ça a été Mohamed Atta.
Oui.
Alors lui, justement, dans un premier temps, on pourrait être intrigué parce que il n'est ni pauvre ni inculte. Il est pas marginal.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Et alors, justement, c'est ce qui fait l'intérêt aussi de la chose. Parce qu'on pourrait dire, bon, besoin d'avoir, de posséder, de prendre une revanche. Enfin, il prend une sorte de revanche quand même. Parce qu'on...
Alors, pour moi, j'ai écrit ce livre quelque part pour savoir, pour essayer de comprendre ce qui est pour moi un immense mystère. C'est comment on peut devenir un terroriste kamikaze, à savoir se tuer. Et non seulement se tuer, mais en plus décider de tuer autrui en même temps.
Parce que ça reste... Particulièrement dans ce cas de figure où c'est un garçon intelligent qui apparemment est équilibré.
Oui, mais alors dans un des livres dont j'ai lu différents domaines, mais il y a un livre de sociologie qui m'a vraiment marqué à ce propos-là. C'est un sociologue qui s'appelle Farhad Krossokovar, qui est, je crois qu'il est iranien au départ, mais enfin, il travaille en français. Et il avait fait en 2002 une grande enquête dans les prisons européennes auprès de gens qui avaient été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à commettre des actes terroristes au nom d'Al-Qaïda. Et en fait, ce qui ressort de son enquête, c'est que ce n'est pas du tout l'image qu'on a de gens peut-être qui n'avaient rien à perdre, en fait, et qui à un moment donné se sont enrôlés là-dedans parce que c'était finalement la seule option que la vie leur laissait. En fait, la plupart du temps, ce que lui dit en tout cas, c'est que ce sont plutôt des gens qui venaient, qui ont connu l'expérience de l'exil, mais dans un cadre où c'était pour aller poursuivre des études supérieures.
Oui, ils avaient un avenir assuré.
Voilà, et Mohamed Atta, il est fils de la bourgeoisie kérote, il fait des études supérieures, il est architecte en Égypte, et après, il va se spécialiser en Allemagne. Donc, à Hambourg. Et c'est là, c'est à Hambourg que se passe quelque chose.
Alors, est-ce que c'est la confrontation au monde occidental ?
Je vous dis, le mystère était vertigineux pour moi et je suis bien obligée de reconnaître que même maintenant que j'ai écrit tout ce livre, je n'ai toujours pas la réponse à pourquoi, à un moment donné, on peut décider de faire ça.
Ouais. Être confronté quand même, quand on connaît l'Égypte, voir l'Allemagne, le niveau de vie de l'Allemagne, le niveau de liberté de l'Allemagne et la pauvreté malgré tout de l'Égypte, en effet un sentiment d'injustice énorme.
Alors voilà, y a l'explication politique, effectivement, elle peut être là. C'est que l'Égypte, dans les années 80, donc les années où Mohamed Atta était encore en Égypte, il part à la fin des années 80 en Allemagne, c'est une Égypte qui a été humiliée. Nasser est mort, Sadat a pris le pouvoir, il a dû s'allonger devant le Fonds monétaire international qui a appliqué la politique d'austérité que depuis on connaît bien en Europe. À l'époque, on pensait sans doute que c'était réservé aux pays du tiers-monde, on s'est pas méfié. Mais du coup, l'Égypte a été totalement désorganisée. Il y a eu des émeutes de la faim très violentes à la fin des années 70. Il y a eu un tremblement de terre au Caire à la fin des années 80, je crois, qui a fait 30 000 sans-abri dans la ville. Un exode rural massif, un pays totalement désorganisé, qui était en même temps le phare intellectuel et politique de l'Afrique du Nord auparavant. Donc cette humiliation-là, je pense qu'elle est très violente. Elle a été infligée par la politique du FMI, donc quand même, on peut le dire, par la politique états-unienne. Et d'arriver ensuite en Allemagne fédérale, tout juste réunifiée, mais quand même à Hambourg, capitale du commerce depuis des siècles, pays fort économiquement, riche, très tourné vers le commerce, etc. Évidemment qu'au niveau politique, il y a un conflit très fort. Mais après, c'est pas parce qu'on est en conflit politique que, même à ce degré-là, qu'on devient kamikaze. Donc il y a aussi des explications intimes, sans doute. Alors là, moi, j'ai pu imaginer du désarroi, j'ai pu imaginer des difficultés à vivre. Ça ne
résout
pas tout.
Parce que dans votre ouvrage, vous le présentez comme quelqu'un qui est plutôt introverti, un caractère plutôt ombrageux, plutôt jaloux. Enfin, il y a un épisode avec une de ses sœurs, je crois, hein, qui est mentionné. Est-ce que... on se pose la question. D'autant qu'il est politisé tardivement, si j'ai bien compris.
Alors, moi, pour sa biographie, je me suis fondée exclusivement sur les quelques pages qui sont consacrées à lui dans le rapport qu'a sorti la CIA en 2003, le rapport d'enquête sur les attentats, où il y a seulement vraiment... peut-être 30 lignes qui lui sont consacrées. Il semblerait que le moment où il se radicalise, comme on dit aujourd'hui, c'est à Hambourg. Donc ça aurait été à Hambourg qu'il a sans doute été approché par des cellules d'Al-Qaïda, ou enfin, en tout cas qui l'ont orienté vers Al-Qaïda. Avant ça, il n'y a pas trace ni d'une religiosité excessive, ni d'une activité politique.
Et pourtant, il arrive à dire, alors je vous lis, ils ont l'air contents pour des êtres promis à la GN, ils s'aiment, se sourient, s'embrassent, se font des blagues, les filles aux longues jambes et aux cheveux de soie, les garçons aux grands yeux clairs et à l'assurance jamais ternie par aucun exil. Que fait Dieu ?
Mais ça, je pense que... Alors, j'étais touchée parce que un ami qui est algérien et qui est venu en France à la vingtaine m'a dit, c'est incroyable parce que ce que tu dis de Mohamed Atta en Hambourg, c'est exactement ce que j'ai ressenti en arrivant, moi, en France. Lui, il est venu d'Alger à Nice. En fait, il me disait... tout ce qu'on m'avait toujours interdit dans la civilisation musulmane, le jeu, la nudité, l'alcool, qui sont les trois
les
éléments haram,
oui.
Et c'est exactement ce qui est mis en avant quand on arrive, enfin c'est ce qui saute aux yeux quand on arrive, et en même temps avec une différence de niveau de vie telle que quand bien même on n'a pas de questionnement religieux ou de conviction religieuse, en arrivant depuis l'Égypte ou l'Algérie, on n'a pas le niveau de vie suffisant pour s'emparer de ça. Et donc Mohamed Atta fait aussi l'expérience d'une pauvreté relative, mais en fait bien réelle. Donc, alors je sais pas, moi j'ai imaginé ça comme ça, sans doute que je suis très loin de la vérité, puisque de toute façon, même le rapport de la CIA, il faut bien se dire que c'est seulement des comptes rendus de fiches de renseignements généraux à droite et à gauche. Donc heureusement qu'on ne se résume pas à ces fiches-là et qu'on est plus complexe que ça.
Oui,
après,
difficile d'analyser un mort.
Et puis moi je voulais, pour moi il fallait le ramener. C'est facile de dire c'est un monstre celui qui fait ça, mais en fait il y a pas de monstre, on est humain, on est des humains. Alors après on peut aller du côté du bien, du côté du mal, et il fallait que je le retire de cette monstruosité et que je le ramène dans l'humanité. Oui. Et pour ça les seuls outils que j'avais c'était de l'empathie en fait. Alors j'ai imaginé du désarroi, j'ai imaginé de la solitude, j'ai imaginé un sale caractère aussi. Mais il y a sans doute autre chose, il y a sans doute de la folie.
Quelque chose, oui.
Le mystère reste entier.
Le mystère, oui. Dostoïevski l'a exploré aussi.
Ouais.
Oui. Alors, il y a également deux personnages qui sont très représentatifs d'une société high-tech, une société puissante, écrasante même. Il s'agit de Lucy et de William, frères et sœurs américains. Très différents, même ne s'entendant pas vraiment, mais issus de la même famille. Ils ont des points communs malgré tout, là aussi. Alors, Lucy, une surdouée, hein.
Oui, c'est une. Bon, elle est qualifiée de génie des maths. Donc, à la sortie de l'école, enfin du lycée, elle est très vite recrutée via des concours, parce que il y a toute cette culture du concours d'éloquence, concours de mathématiques, etc. Et donc, elle est recrutée par une très grosse entreprise d'assurance financière.
Et elle se sort, excusez-moi, elle se sort d'une ville qui est en faillite. Détroit.
Oui, alors ils ont grandi à Détroit. Oui. En fait, ils sont issus de du vieil homme qu'on entend parler au téléphone au début du roman. Et ce vieil homme est lui-même un immigrant. Il est venu de Pologne, travailler donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, travailler aux usines Ford dans le Michigan. Et donc ils sont arrivés à Détroit. Et ça, c'était très important pour moi aussi de dire, attention, l'exil, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de bons exilés, de mauvais exilés. À un moment donné, les gens changent de continent, ça existe. Et donc cette famille polonaise, donc à Détroit, il y a toujours une grande communauté de Polonais, qui sont d'ailleurs les catholiques de Détroit, vit chichement. Et puis les deux enfants, en fait, font cette espèce de promotion sociale des enfants d'immigrés qui est souvent décrite. Quoi. Donc Lucie part travailler dans l'assurance financière. Elle fait du calcul, hein, elle fait des algorithmes.
Et très jeune.
Très jeune. Et en fait, elle est propulsée à New York. Donc, elle travaille au 106e étage de la tour sud du World Trade Center. Et elle est propulsée aussi dans la richesse, parce que c'est des endroits qui sont très bien payés. Donc, elle est débordante d'argent, quoi.
Et en même temps, envoyée dans un carcan, elle qui était très rebelle.
Oui, c'est une adolescente assez chahuteuse qui fait un peu tous les sales coups qu'on peut faire quand on s'ennuie à l'école et puis qu'on n'a pas trop de bonnes idées pour faire autre chose. Donc elle passe son adolescence à se droguer et puis à aller écouter de la techno à Détroit et puis tout d'un coup elle se retrouve à New York à travailler à Manhattan et donc en même temps elle noue une relation amoureuse avec un français qui est le seul français du livre qui est représentant de la pensée radicale de gauche. Donc
Alors, c'est très curieux, je me suis interrogée, parce que ce français, dans le fond, qui a des idées très intéressantes, il ne m'est pas très sympathique.
Non, il n'est pas très sympathique, ouais. Il est très prétentieux, mais bon, ça oui, m'amusait
là,
en fait.
Vous avez un regard très américain sur les Français.
Mais en fait, je me disais, parce que il y a eu plusieurs modèles, mais quand même, un des textes qui m'ont paru très importants, qui ont été écrits au moment du 11 septembre, c'est un texte de Jean Baudrillard qu'il avait fait dans Le Monde. Là, son titre m'échappe, mais c'est quelque chose avec la violence. Enfin bon, un texte qui fait une douzaine de pages, où il dit des choses très définitives sur ce qui a eu lieu le 11 septembre, et qui sont, dans l'ensemble, quand même très justes et très clairvoyantes pour un texte écrit aussi vite après les faits. Mais en même temps, je me suis dit, si j'avais été moi, citoyenne américaine, et que j'avais lu Jean Baudrillard se permettant de me faire la leçon du haut de son petit intellect français...
Que Suzanne Sontag, je vous l'ai dit hors antenne, n'a pas repris les propos de Baudrillard, mais elle-même, américaine, a eu d'ailleurs une réflexion assez étonnante.
Mais de toute façon, c'est très sain et c'est très salutaire qu'il y ait des critiques radicales d'un événement pareil. Et heureusement qu'il y a eu Baudrillard ou Suzanne Sontag pour dire ce genre de choses. Mais en même temps, je trouve que les Français sont quand même toujours très amusants avec ça et je suis moi-même française donc je le dis en sachant de quoi je parle. On a toujours un très grand avis sur comment les Américains devraient faire de la politique, comment nous on le fait mieux qu'eux et en même temps ça peut prêter à rire aussi. Mais pour moi c'était important que c'est ce message politique très critique qui est porté par Frédéric apparaissent dans le livre.
Et finalement assez juste.
Alors après, chacun ses convictions, mais bon, moi en tout cas, c'est plutôt des idées que je partage.
Alors, nous allons faire une autre pause musicale avec Bruce Springsteen qui chante My City of Ruins. Alors, vous la connaissez, cette chanson, je le sais. Et elle était écrite en 2000. Alors, vous voyez, c'était prémonitoire pour une autre ville qui était redynamisée, paraît-il. Elle a été reprise après les attentats du World Trade Center. Il l'a chantée le 21 septembre 2001 en ouverture d'une émission destinée à collecter des dons pour les victimes. Voilà. Et le refrain scande « Come on, rise up, allez debout ». Ça, c'est très américain aussi. Il y a quand même une énergie.
Come on, rise up.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Oui, désolé d'avoir interrompu cette chanson de Bruce Springsteen, mais voilà, le temps qui nous est imparti va très vite aujourd'hui. Nous parlions avec Fanny Taillandier, nous parlions de son roman « Par les écrans du monde » et je rappelle que ce n'est pas qu'un roman parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Et un roman qui nous amène à réfléchir également et à voir un peu où nous en sommes maintenant. On a parlé des personnages qui animent votre roman. On n'a pas parlé du frère William, c'est un écorché vif celui-là.
Bah lui, il représente l'autre aspect de ce que c'est de s'inscrire dans une grande histoire, puisqu'il est très patriote au départ. Il a été élevé donc par son père émigré, mais
qui lui-même est très patriote, mais ouais. Même elle dans le fond.
Oui, elle l'exprime moins, mais lui, il est patriote et donc il s'est engagé, jeune homme, il s'est engagé dans l'Air Force, dans l'armée de l'air. Et en fait, c'est l'armée qui l'a détruit, non pas parce qu'il aurait été dans des situations de violence trop difficiles. Il était devenu interprétateur d'images, donc c'est un poste qui est... dans l'armée technologique avancée, on va dire, ce qui consiste à suivre par image radar ou satellite le largage des bombes sur des signes, des cibles désignées.
Oui. Voilà.
Donc, et en fait, c'est une façon d'être au combat sans être au combat, donc par écran interposé, encore une fois. Mais un chercheur français qui s'appelle Grégoire Chamaillou, qui est quelqu'un de passionnant, a fait un livre sur la question qui est sorti, je crois, en 2011 ou 2012, qui s'appelle Théorie du drone. Et il expliquait que, en fait, le syndrome de choc post-traumatique qui avait été identifié sur des vétérans du Vietnam, donc des gens qui avaient été vraiment au contact de la guerre physique, se retrouvait chez des pilotes de drones, donc des gens qui n'étaient même pas sur les lieux de la guerre. D'accord. Mais qui étaient à des milliers de kilomètres. Donc ça a posé des tas de questions aux États-Unis, dans le corps de l'armée, parce que c'est des gens que ça rend inaptes au combat. On parle de ce syndrome qui empêche de dormir, qui crée des visions, de la paranoïa, un sentiment de claustration, etc. Quelque chose de très difficile. Et donc William a dû quitter l'armée, en fait, à cause de ça. Et il est devenu policier à l'aéroport de Boston, donc.
Oui, parce que en fait, ce syndrome, je crois que il l'a éprouvé. On lui demandait d'analyser une photo ou une image d'un drone ou d'un satellite, et il y a une silhouette qui n'a pas su déterminer en plus. Et c'est vrai que, en fait, c'est très intéressant également de voir comment ça peut fouiller l'esprit et la conscience.
En fait, les images, elles peuvent vraiment nous faire. Réagir très, très profondément. Et lui, effectivement, alors ça c'est inspiré d'un fait réel qui est rapporté par Chamaillou, justement. Il parle de ce moment où sur la cible, à côté de la cible, tout d'un coup surgit sur l'écran de guidage une petite silhouette et qu'il donne l'ordre de larguer, donc la bombe part, mais il n'a jamais eu le temps de voir, de distinguer sur l'image s'il s'agissait d'un chien ou s'il s'agissait d'un enfant. Et que cette incertitude-là, elle reste, quoi. Et que la bombe a été lancée. Et en fait, l'image a pris une telle place qu'elle est capable de faire ça, en fait. Ce qui n'arriverait jamais sur le terrain, puisque sur le terrain, évidemment, on verrait la différence entre...
Et puis l'idée d'une... il est conscient qu'en fait, ce n'est pas une guerre propre, quoi qu'on dise.
Oui, parce que par ailleurs, les États-Unis, mais ce n'est pas les seuls, tout pays en guerre fait toujours un peu la même chose, font une propagande très forte. Donc lui, il a participé à Tempête du désert au Koweït, à l'opération Restore Hope en Somalie. Et donc des opérations sur lesquelles il y a eu une très forte propagande par l'image aux États-Unis et en Europe par la même occasion, puisqu'on était leurs alliés à ce moment-là, qui disaient guerre juste, guerre propre, guerre humanitaire, même dans le cas de la Somalie, on y allait uniquement pour...
pour Bagdad également.
Pour résorber la famine.
Oui, il n'y avait pas de mort, que des destructions.
Donc des images très pures, très épurées, et en fait la réalité du combat, c'est que c'est la guerre, en fait, et la guerre, c'est la guerre, donc c'est au contraire, c'est pas propre, c'est violent, etc. Et donc il se retrouve écartelé entre ce récit qu'il a porté, qu'il a fait devenir adulte et qu'il a guidé dans ses choix, et la réalité de ce qu'il a vu. Et là, à nouveau, le récit explose, puisque les États-Unis, première puissance du monde, se retrouvent attaqués en leur cœur, en leur symbole le plus fort. Et lui, tout d'un coup, à 10h du matin, arrive chez lui, l'agent spécial du FBI qui lui dit « Alors, c'est vous le responsable, vous avez laissé monter ces gens dans les avions. Pourquoi vous ne les avez pas interceptés ?» Et lui, il n'avait pas l'ordre de les intercepter. Mmh. Et ils sont partis de son aéroport. Mmh. Voilà, donc c'est, lui, en fait, quelque part, c'est l'Amérique dans ses mythologies qui explosent dans sa tête. Quoi. Mmh.
Dans le fond, Fanny Taillandé, vous ouvriez plusieurs portes, parce qu'on pourrait parler effectivement de tout ce qui se passe par rapport à cette guerre par drone, par cette guerre virtuelle, mais qui n'est pas en définitive. Vous pourriez parler aussi de cette surveillance intense qui a des failles, comme toutes les surveillances. Mmh. Hein, on veut vraiment coincer les gens, on les fait se déchausser, et puis finalement, on se rend compte que la violence existe quand même.
Bah oui, et puis en fait, si les détournements du 11 septembre ont eu lieu, c'est en dépit de tout système de surveillance qu'il y avait déjà à ce moment-là. Il y avait déjà des contrôles, moins qu'aujourd'hui, mais et en fait, les terroristes sont montés à bord totalement désarmés. Il y en avait un qui avait une toute petite lame pour pouvoir menacer le cas échéant. Mais en fait, ils en ont à peine eu besoin, quoi. Et je me disais d'ailleurs tout à l'heure, en prenant l'avion pour venir à Toulouse, que finalement, ce que Mohamed Atta avait laissé, c'est que maintenant, on était tous suspectés par les différents pouvoirs d'être des potentiels Mohamed Atta. Ce qui est assez bizarre, parce que ça fait une anthropologie, en fait, une image de l'être humain, où finalement, le terroriste qu'on définit toujours comme le grand autre, c'est... dans la suggestion, implicitement, c'est chacun de nous, quoi. Mmh. Ça, j'ai trouvé que c'était assez frappant.
Oui, il faut dire aussi que ça encore, c'est un autre débat, mais le suicide, hein, ces hommes qui se suicident comme ça, c'est quand même assez récent.
Alors ça, oui, c'est une question que j'ai trouvée très intéressante aussi, notamment parce que c'est quelque chose, donc les kamikazes, c'est un mot japonais, c'est les pilotes de l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'était quasiment typiquement japonais d'ailleurs.
Oui, oui. Et alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que le sunnisme, donc le courant de l'islam dont se revendique Al-Qaïda, a toujours interdit le martyr. Puisque le schisme avec l'autre branche, le chiisme, s'est fait justement sur la question de ça. Le sunnisme ne reconnaît comme figure de culte que Dieu et son prophète Mohammed. Mmh. Et les chiites, eux, ont le prophète Hussein, peuvent avoir un culte des saints.
En Iran, essentiellement.
En Iran, ouais. Et puis en Syrie aussi, un petit peu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le Hamas, donc en Palestine, qui récupère dans les années 80, au moment où le jeu politique change en Palestine avec Israël, récupère cette idée de la possibilité
c'est
de
le,
partir.
C'est le point de rencontre. Alors, vous avez appelé ça, parce que je pense que c'est un nom que vous avez donné, j'avais jamais entendu parler enthousiasme.
Eh ben en fait, j'ai découvert en travaillant que Hamas, donc c'est un acronyme en fait, ça veut dire le mouvement islamique, oui, c'est le début des deux mots.
Oui, c'est un autre sens aussi.
Mais en fait, ça veut dire enthousiasme.
Ah oui, d'accord. Voilà, enthousiasme, alors point de ralliement des réfugiés, des exilés, des désespérés. Alors, peu de temps nous reste. Vous terminez par deux incantations. L'une de Bush qui cite le poème, le psaume 23. Je crois que c'est Bush qui parle.
Oui,
là.
Oui, c'est le discours de Bush du soir du 11 septembre.
Et celle d'Atta, Mohamed Atta, qui bafoue ce qu'est Dieu, enfin, qui dit, je reprends le terme, Dieu est grand.
Dieu est grand, et puis il n'est de Dieu que Dieu, et Mohamed est son prophète.
Voilà, alors écoutez, tout ça, ça fait froid dans le dos, parce que c'est vrai que quand on est croyant, on ne se reconnaît pas dans ses comportements guerriers. Et ce qui, par exemple, Mitt Romney, le favori républicain pour la présidentielle de 2012, a plaidé vendredi dernier pour la diplomatie, une diplomatie américaine, vendredi dernier, pour 2012 c'était, a plaidé pour une diplomatie américaine plus musclée, expliquant que Dieu a créé les États-Unis pour dominer le monde et que le président Barack Obama a affaibli le pays. Voilà, je pense que ces mots ont fait écho puisqu'on a trouvé M. Trump. Bon, alors, quant à l'incantation de Mohamed Atta, Dieu est grand, c'est quand même étrange, finalement, de dire ça en tuant.
Mais malheureusement, comme Jésus l'a dit, pour le coup, son royaume n'est pas de ce monde. Et ce qui nous reste dans ce monde, c'est tout ce qui n'est pas le royaume de Dieu. Et c'est cet homme injuste et ignare dont parle la sourate des factions.
Oui, on retourne là.
Dieu ne
en
peut
sachant
servir.
Que c'est blasphématoire, finalement. C'est,
bien sûr.
C'est l'orgueil, parce qu'on dit que le plus gros grand péché, c'est l'orgueil humain, de prendre la place de Dieu.
tout à fait, mais en même temps, quand Bush cite le psaume 23, oui, il est en train de faire exactement la même chose, parce qu'il sait très bien, lui, parce qu'il dit, juste avant, il dit « Notre nation a vu le diable ».
Oui.
Et
oui, oui.
C'est pareil, non, il n'a pas vu le diable, la personne n'a vu le diable, ce qui s'est passé là, c'est quelque chose d'humain, c'est un front d'une guerre qui a changé de place. La guerre avait commencé avant, la guerre contre Al-Qaïda était déjà en cours, la guerre avec l'Afghanistan était déjà en cours sous d'autres formes, le front change, il arrive à New York. Mm. Que dit Bush ? Il dit c'est, non, c'est le diable.
Et je ne crains pas le diable car tu es avec moi.
Voilà. Donc voilà. Dieu, pas de problème, il est du côté des États-Unis. Mmh. Mais en fait, tout ça, ce sont des étendards de croisade. C'est dire pour une guerre qui est toujours la guerre a toujours la même raison. Hein, c'est le désir de s'accaparer un territoire, des richesses, etc. C'est à la place de dire ça, qui est
d'ailleurs
médiocre,
ce que dit
dire...
Fred, ce français,
le fameux Frédéric, qui voit juste malgré son sale caractère. Quand on met Dieu dans les affaires humaines, en général, il y a une entourloupe quelque part. En tout cas, c'est ce qui me semble. Et en même temps, j'étais contente que le livre puisse finir par « Dieu est grand ». Parce que, comme le dit cette sourate citée en exergue, voilà.
Il est grand, mais encore faut-il que l'homme...
sache rester à sa place.
Oui. Un grand merci, Fanny Taillandier.
Merci beaucoup à vous.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un roman écrit donc par Fanny Taillandier, intitulé « Par les écrans du monde » et édité par Le Seuil.